si vous voulez que je parle de quelque chose, il faut que je parle de Joseph Augusteret et de ses amis ici, parce que je pense qu'il se sentirait à l'aise dans cet endroit, qui pourrait résonner beaucoup pour lui-même et pour tout ce qui a pu le préoccuper tout au long de sa vie. Je vais commencer en vous faisant une citation. « Je me fous pas mal du droit, pourvu que j'ai celui de fumer ma pipe et de regarder les nuages rouler au ciel, couché sur le dos en fermant à demi les yeux. C'est tout ce que je veux. Est-ce que j'ai envie de devenir fort, moi, d'être un grand homme, un homme connu dans un arrondissement, dans un département, dans trois provinces, un homme maigre, un homme qui digère mal ? Est-ce que j'ai de l'ambition, comme les décrotteurs qui aspirent à être bottiers, des cochers à devenir palefreniers, les valets à faire les maîtres, l'ambition d'être député ou ministre, décoré conseiller municipal ? Tout cela me semble fort triste et m'allèche aussi peu qu'un dîner à 40 sous ou un discours humanitaire. » C'est Flaubert qui a écrit ça. Flaubert qui avait commencé des études de droit, qui les a heureusement, je dirais, interrompues pour se consacrer à la carrière littéraire. Flaubert qui est né en 1821, justement au même moment où Joseph Augusteret traînait à Paris, traînait ses guêtres de jeune étudiant grenoblois perdu dans la ville. C'est à peu près, je dis maintenant, j'ai écrit une dizaine d'années, mais il y a plutôt une quinzaine d'années qu'un ami est venu me voir avec un paquet d'archives sous le bras. Lui est collectionneur de poterie, et donc ça n'a aucun rapport, mais il connaissait bien les brocanteurs, les marchands. Un jour, il a acheté quelques poteries à un marchand, puis il avise sur une table, quelque part, un paquet d'archives, et puis comme ça, il lui dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ces vieux papiers? Et le brocanteur lui dit ça... Je ne sais pas ce que c'est, j'ai eu ça dans une succession, si ça t'intéresse, prends-les. Il a pris ça en pensant à moi, il est venu chez moi, il a mis ça sur la table, il dit je ne sais pas ce que c'est, je te laisse faire. Je me suis plongé dans ces papiers, j'ai vu que c'était des papiers qui dataient en majeure partie de la première moitié du 19e siècle, pour une autre partie des années 1820, 21, 22. Et j'ai commencé à lire, et j'ai commencé à être fort surpris parce que je lisais. J'avais en main la correspondance active, c'est-à-dire les questions et les réponses, on va dire, les lettres envoyées et les réponses, d'étudiants grenoblois qui étaient au nombre de 4. Il y avait pour personnage central Joseph Augusteret, étudiant en droit, il y avait Albin Crépu, étudiant en médecine, Alexandre Charvet, étudiant en médecine aussi, et un certain Pierre Bruyas, étudiant en droit, plus vieux que les autres de 5 années. À l'époque, ils avaient 20 ans. Pour eux, 25 ans, c'était vraiment un vieux. Mais ils s'entendaient tous très bien. Il ressortait de cette correspondance quelque chose qui a commencé à vraiment me prendre, que je trouvais fort passionnant et tout à fait sympathique. Donc j'ai poursuivi les recherches. J'ai commencé à saisir cette correspondance. Et en même temps, je faisais des recherches à la Bibliothèque nationale, aux Archives nationales. Et mes pas m'ont conduit à Grenoble. On part sur un chemin, on ne sait pas où on va aller, et tout d'un coup, on tourne au coin d'une rue et on a une sorte de révélation. Joseph Augusteret était né à Grenoble, mais vivait au Fontanil. C'était à l'époque un village de 400 âmes. Maintenant, il y en a un peu plus. C'est maintenant la banlieue de Grenoble, mais c'est encore très vert, sous le massif de la Chartreuse. Et je suis donc arrivé là avec un ami, on s'est arrêté en voiture, et je lui ai dit que je vais aller au cimetière, parce que j'ai un nom. Je vais essayer de voir si je trouve cette personne, ou du moins la trace de cette personne. Je monte à travers les chemins, c'est assez vert, je passe derrière la mairie, et en haut, je trouve le cimetière. Je pousse la grille, et comme au cinéma, je remonte l'allée centrale, je vais au bout, la tombe du milieu. C'était mon personnage qui m'attendait. C'était la tombe de famille. Donc je me suis dit, s'il a cette place-là dans ce cimetière, ça veut dire que probablement il a donné le terrain, parce que ça se passait souvent comme ça. Il a la place entre guillemets d'honneur, si on peut avoir une place d'honneur d'un cimetière. J'étais juste à la mairie en dessous, où j'ai rencontré une dame qui s'appelait Madame Bonté, d'ailleurs, avec un accent grenoblois très chantant et très charmant. Je lui ai expliqué un peu ma démarche, alors elle était très surprise, assez intéressée. Elle a pris des notes, elle m'a dit, bah, écoutez, je vais voir si on a peut-être un dossier de sépulture. Je rentre à Paris, le temps passe, pas très longtemps, quelque chose comme 2-3 semaines. Je tends un message sur mon répondeur et j'entends ici Madame Bonté, écoutez, il faut que vous me rappeliez, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc il se trouve que pratiquement une semaine après mon passage, Des gens sont venus voir Madame Bonté à la mairie et lui ont dit, voilà, nous avons perdu une personne très chère de notre famille et nous faisons, pardonnez-moi un peu l'expression, la tournée des cimetières avec notre famille. Nous allons voir les sépultures de la famille et nous sommes allés voir la tombe de la famille Ray dont nous descendons. La secrétaire m'a expliqué ma démarche, à leur tour d'être surpris. Et c'est comme ça que, quelques temps après, j'ai téléphoné à ces personnes. On s'est rencontrés au Fontanil même, et ils ont pu me raconter une part de l'histoire familiale, la suite de l'histoire de ce personnage, eux-mêmes étant descendants, par le fils de Joseph Auguste Rey. Donc ça, c'est un des épisodes. Je ne vais pas vous raconter tous les épisodes parce que ça serait trop compliqué et puis ça me sortirait du sujet. Parce que le sujet, ce sont ces documents. Des documents qui sont des brouillons, parce que Ray envoyait des lettres à ses amis, il gardait les brouillons. Il a eu la bonne idée de faire des brouillons d'ailleurs. Et ses amis lui répondaient. Et donc nous avons les réponses originales. Leurs brouillons qui sont un peu particuliers, Ray était étudiant et il prenait des notes à moitié en sténo. On peut pas dire que ça soit de la sténographie très difficile. J'ai fini par tout décrypter. Le fond est vraiment très particulier, il comporte une correspondance. Il comporte des écrits qu'il a intitulés Philosophie en vue de la mort, qu'il a écrit à la fin de sa vie, des textes absolument incompréhensibles. Et là, c'est un petit roman utopie caractéristique de cette époque, l'époque des utopistes du socialisme. Ray est venu à Paris en 1821 et a écrit quotidiennement son journal d'étudiant. Et il raconte tout ce qu'il pouvait voir, les rencontres qu'il pouvait faire, tout ce qui pouvait l'émerveiller dans la ville. Donc, c'est tout à fait passionnant. Là, c'est la suite du journal qui se présente toujours comme ça, qui n'est pas très épais mais qui est très dense. Donc, Joseph Auguste Rey, qui est le personnage central de cette recherche, de cette découverte, est né en 1800. C'est le fils d'un régisseur qui travaillait, alors ça c'est un peu compliqué parce que c'est très difficile à savoir, mais pour un sieur Dupré. Dupré qui semble être un descendant des seigneurs du Fontanil. Ray donc a fait ses études au lycée de Grenoble, semblait-il d'assez bonnes études, et il a rencontré déjà une partie de ses fameux amis. Il s'est inscrit à la faculté de droit, il se destinait à la profession d'avocat, tout ça représentait des sacrifices financiers, mais heureusement, le sieur Dupré était là, et on verra qu'il faisait souvent appel à la bourse de cet homme, qui avait dû, comme il se doit à l'époque, proposer au père de Ray de financer les études de Joseph Auguste. Donc les étudiants qui ont rejoint Ray à Grenoble, il y avait donc Alexandre Charvet. Alexandre Charvet était étudiant en médecine. Alors ce qui est assez curieux et vraiment très passionnant, c'est que tous ces gens, mis à part Brouillasque, je dirais, pardonnez-moi, je dirais qu'il est devenu seulement notaire, les autres sont devenus des personnalités locales. Félix Crozet, qui est un parent d'un ami de Stendhal, lui va devenir historien du Dauphiné, archiviste de la ville. Il écrira plusieurs textes très intéressants. Il était aussi à ses heures perdu musicologue, un musicologue assez confus qui a publié une revue, mais quelqu'un qui a vraiment compté pour Grenoble. Albin Crépu, lui, il était médecin et il a quelque chose de très particulier, c'est que, mis à part qu'il semblait le plus doué de ses garçons pour courir les filles, il a fait de bonnes études et il est devenu le troisième promoteur de l'homéopathie en France. Il fera une carrière très brillante, il va être un des fondateurs du muséum de Grenoble. Pierre Brouillasque, lui, il est né en 1795, donc il est originaire de Montbrison. Il est venu faire ses études de droit à Grenoble et il a une particularité, c'est qu'il est venu à Paris avant tout le monde. Donc il a écrit des lettres à ses amis, des lettres que les amis se lisaient. Le soir, il se retrouvait au jardin de ville, un jardin qui était très cher à Stendhal aussi, puisque le grand-père Gagnon habitait, avait sa terrasse qui donnait sur le jardin de ville. C'est le jardin de l'ancienne propriété des Diguières. C'est encore le jardin central du vieux Grenoble. Sur le côté, il y a une terrasse qui rejoint l'Isère. Et sur cette terrasse, les amis se réunissaient et faisaient des commentaires, se poussaient du coude en regardant les filles, faisait des commentaires sur ses filles, des commentaires, on va dire, quand même très légers, très corrects, mais pour éviter que les commentaires se promènent en ville, il donnait des numéros à ces jeunes filles, et dans les lettres, on retrouve des mentions. J'ai vu la numéro 3 avant-hier, ah, mais j'ai vu passer la numéro 4, elle était accompagnée par un tel, et ainsi de suite. Donc pour reprendre mon propos, Brouillas c'était là, mais il est parti avant tout le monde à Paris, et après il va s'installer à Montbrison, où il va commencer une carrière d'avocat. Ça n'ira pas très fort, et donc il va à ce moment-là faire une alliance et prendre une charge de notaire à Sury-le-Comtal, qui est assez proche de Saint-Étienne. Il va faire toute sa carrière là. Brouillas, c'est une très bonne plume, c'est dommage qu'il n'ait pas écrit plus, mais c'est comme ça, j'ai essayé de trouver des descendants, je n'en ai malheureusement pas trouvé, on ne peut pas gagner à tous les coups, et il n'est pas sûr que ces personnes aient gardé quelque chose. Dans les épisodes de mes recherches sur Grenoble, il y a donc Félix Crozet. Félix Crozet, dont j'ai déjà parlé, j'ai eu vraiment une surprise. Dans une de ses lettres, je crois que c'est Ray qui dit « Félix Crozet est notre greffier, il note dans un cahier tous les bons mots du groupe que nous pouvons nous raconter quand nous allons au jardin de ville. Il cite, mais malheureusement dans le brouillon, il ne la cite pas complètement, une lettre, modèle de platitude, paraît-il, d'un garçon qui, hélas, s'était fait manœuvrer par des grenobloises. Il était fou amoureux de l'une d'elles. Il lui avait écrit une lettre absolument ridicule qui avait fait rire beaucoup ses garçons et ses jeunes femmes. Donc il s'était amusé à se l'envoyer. Malheureusement, elle n'était pas dans les archives et ça me frustrait beaucoup. L'été suivant, je fais une descente, si j'ose dire, à la bibliothèque centrale de Grenoble. Je consulte quelques manuscrits et là, j'ai une très très grande surprise. Les archives de Crozet ont été déposées à la bibliothèque. Je retrouverai donc dans ces archives les mémoires de Félix Crozet qui sont inédits, où il parle de Ray et de ses amis, donc il apporte des informations supplémentaires, la façon dont ils se sont connus. J'ai aussi une correspondance, particulièrement avec Pierre Brouillas. Donc, ça a apporté vraiment de l'eau à mon moulin et un complément à la correspondance que je possédais déjà. Et à part, classé dans le fond des manuscrits, je vois manuel de rhétorique. Effectivement, il suivait des cours de rhétorique au lycée, c'était une matière qui était très essentielle à cette époque-là, et donc je demande à qu'on me sorte ce registre. J'ouvre le manuel de rhétorique, effectivement, il y avait le nom de Félix Crozet sur la couverture. Je poursuis ma lecture de ce registre et tout d'un coup, les choses se mettent à changer. Je tombe sur la lettre modèle de platitude. J'avais dans les mains le fameux registre du groupe, le registre du greffier Crozet, qui a été déposé à la bibliothèque de Grenoble de façon totalement extraordinaire. Donc ça m'a vraiment amené beaucoup d'eau à mon moulin. Donc ces personnages ont passé leur temps à se fréquenter. Quand ils n'allaient pas au jardin de ville, Grenoble est une ville quand même qui l'hiver est assez froide, très chaude l'été. C'est la ville la plus chaude de France. Ils pouvaient se retrouver soit au frais, soit au chaud dans la petite chambre de Joseph Auguste. Le 2 avril 1821, il y a eu quelques manifestations d'étudiants sans grande importance dans les rues de Grenoble. L'ambiance dans les facultés à cette époque était très chaude. Le pouvoir central, qui n'attendait que ça, a décidé la fermeture de la faculté. Donc pour Ray et ses amis, ça paraît être une catastrophe, mais pas tant que ça. Ray ne visait qu'une chose, après avoir lu les lettres de Brouillas, c'est pouvoir aller lui-même à Paris. Donc il va faire des pieds et des mains pour pouvoir être transféré à Paris. Il va aller à Paris, par chance, ils n'ont pas été si nombreux que ça. Et d'autres vont aller dans des facultés de province, surtout le sud de la France. Donc il prend la diligence, la route de Lyon, la route du Bourbonnais. Il met 5 jours pour arriver à Paris. Il arrive le 12 novembre 1821. Il s'installe rue Saint-Jacques. La rue Saint-Jacques était à l'époque la rue que tous les étudiants occupaient dans des chambres pas toujours très confortables, mais c'était la rue des hôtels. Il y a encore un ou deux hôtels d'ailleurs dans la rue Saint-Jacques qui datent de ces époques-là. Quand Ray arrive à Paris, il faut bien s'imaginer que c'est un garçon qui a 21 ans, qui est totalement ébloui par ce qu'il voit. Il est très surpris par la saleté des rues, mais il est aussi ébloui par les théâtres, par l'activité, par le Palais Royal, par la Seine, par le Louvre. Il a beaucoup d'appétit, enfin d'appétence pour voir tout ça, mais il faut aussi qu'il fasse ses études. Et ça, c'est un gros problème. Il faut quand même travailler. Mais bon, il va arriver à s'en tirer quand même. Donc il fait des visites à droite, à gauche. Et à un moment donné, ça dégénère aussi à Paris. Et on décide de fermer la faculté de droit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bref, va prendre son mal en patience. Il avait déjà joué un peu dans une des fameuses maisons de jeu du Palais Royal. Il va continuer. Il va faire des martingales, il va se faire aider par d'autres pour essayer de gagner le peu d'argent qu'il pouvait perdre en réalité, parce que dans ces maisons de jeu, on perdait beaucoup plus d'argent qu'on en gagnait. À la fin du compte, il va réussir quand même à faire ses études et revenir au Fontanil. Mon parcours avec Joseph Auguste Rey est donc positionné par rapport à ses amis et particulièrement à Bruyas, qui l'a précédé dans son voyage. En juin 1821, Pierre Bruyas écrit: En vérité, je ne sais point encore si je dors ou si je suis éveillé. Je me pince l'oreille et suis à chaque instant surpris de me trouver dans la capitale. Combien peu de temps il faut pour changer la destinée d'un homme, pour l'enlever à ses amis, à ses parents et le transporter, pour ainsi dire, dans l'autre monde? Bien peu de jours ont suffi pour opérer dans mon état cette transmutation. Cher ami, depuis que je vous ai embrassé à la porte de France, j'ai traversé maints départements et vu les villes de Lyon, Roanne, Saint-Symphorien, La Palisse, Moulins, Nevers, Montargis, Fontainebleau, Compiègne, etc., etc. Pour que ce voyage eût été parfait, il ne me manquait que de vous trouver ici au bout de ma course. Paris n'est qu'un gouffre immense, une collection de maisons et de bâtiments. En les voyant tous réunis, ils ne l'étonnent d'abord que par leur nombre, mais ils ne répondent pas au premier aspect à l'idée qu'on s'en était faite en province. En voyant Paris de loin, j'ai d'abord cru que toutes les maisons de la France et de ses provinces s'étaient donné le mot pour partir en poste et venir me devancer dans cette capitale. Je n'ai été désabusé qu'en voyant que tout était fixe, que les maisons qu'on trouve ici ne s'en retournent pas en province et qu'on les retrouve à volonté. Le 12 juillet 21, il continue. Ne vous attendez pas, cher ami, que je vous conte dorénavant aucune nouvelle balourdise. Grâce à Dieu, j'ai observé que je pouvais les éviter aisément en agissant et parlant avec plus de circonspection, en ne faisant qu'après avoir vu faire les autres et en ne répétant que ce qu'ils ont dit, etc. Ce moyen m'a jusqu'à présent bien réussi. Rien en moi ne peut faire reconnaître un provincial, si ce n'est mon accent, ma démarche, ma tournure et enfin mes habits. Je me considère donc comme un Parisien. Puisque vous aspirez de devenir aussi Parisien, du moins pour quelques mois, vous ne serez peut-être pas fâché que je vous fasse connaître les mœurs de vos futurs compatriotes et que je vous apprenne le langage du pays. Les mêmes mots sont employés dans la capitale et dans les provinces, mais ils ne se rapportent point aux mêmes objets. Ainsi, pour vous en donner un exemple, une femme à Paris n'est point un être semblable à celui qui porte ce nom en province. Vous en pourrez juger tout à l'heure. De même, quand je vous dirai qu'il pleut à Paris pendant une journée entière, ou pendant plusieurs jours, n'importe, n'allez pas croire que cela veut dire qu'il tombe continuellement de l'eau, que le ciel est couvert de nuages, que la lumière du soleil est interceptée ou affaiblie. Vous seriez dans la plus grande erreur. Quand il pleut à Paris pendant l'été, cela veut dire que le soleil brille dans tout son éclat, ou du moins que sa lumière est très peu affaiblie, qu'il tombe pendant 203 minutes, c'est écrit comme ça, des globes d'eau d'un centimètre de diamètre, que cette onde est suspendue pendant 4 ou 5 minutes, après lesquelles elle recommence subitement pour finir et recommencer ensuite de la même manière, après de semblables périodes. Tel est le phénomène que j'ai déjà observé pendant plusieurs jours et qui, d'après ce qu'on m'a dit, se reproduit toujours avec les mêmes circonstances pendant la belle saison. Une femme ici se croirait méprisable si elle n'avait pas un amant qu'elle puisse chérir et aimer exclusivement. Mais, chose singulière, une fois que cet heureux amant s'est présenté, une fois qu'il a reçu le gage de la tendresse, on ne voit plus que lui, on ne daigne même pas jeter un coup d'œil passager sur le reste de l'univers. Tout devient étranger, tout est sans prix, excepté l'objet qu'on aime exclusivement. Je n'aurais jamais cru cela si je n'en avais déjà pas vu de mes yeux un millier de preuves authentiques. Vous voyez, d'après ce que je viens de dire, qu'il n'est point difficile à un jeune homme de trouver une femme qui fasse son bonheur pendant tout le temps qu'il réside à Paris. Aussi un étudiant se croirait-il déshonoré si le dimanche et le jeudi de chaque semaine, on le voyait se promener à Marbeuf ou aux Champs-Élysées avec sa maîtresse sous le bras. Aussi sont-ils tous pourvus et ne rivalisent-ils que par la beauté de leurs amantes. Voici toutefois comment on fait ici ce qu'on appelle une connaissance. On va se promener n'importe où, on choisit une demoiselle parmi toutes celles qui se promènent avec leurs parents, on passe et repasse plusieurs fois auprès d'elle en la fixant, on la suit jusqu'à son logis, ce dont elle s'aperçoit bientôt et dont elle donne des marques en se retournant de temps en temps. On demande son nom au portier de la maison qui s'empresse de vous le dire. On reste un instant dans la rue. On observe si la demoiselle prend la fantaisie de se mettre à la fenêtre. Sinon, on s'en va et on ne revient plus attendu que la place est occupée. Dans le cas contraire, on écrit une déclaration et le lendemain, on revient sous les fenêtres de la belle. On amène avec soi le premier petit polisson qu'on rencontre sur son chemin et on lui tient ce langage. « Tiens, voilà 20 sous. Tu vois bien cette demoiselle à sa fenêtre. Remarque-la et quand elle descendra seule ou avec sa bonne, tu lui remettras cette lettre disant qu'elle vient d'une demoiselle. » Si elle fait difficulté de la prendre, tu la lui mettras dans les mains et tu disparaîtras à l'instant. Ensuite, tu viendras me rendre raison de la commission dans telle rue, à tel numéro, etc. 2 jours après, si la demoiselle n'a pas répondu ou écrit de nouveau, on est quelquefois obligé d'écrire 3 fois. Vous recevez ensuite une réponse, puis un rendez-vous qui ne se donne point comme à Grenoble dans un coin de rue, mais dans la chambre du jeune homme. Que cela ne vous paraisse pas extraordinaire, c'est un point reçu et réglé par la jurisprudence. D'ailleurs, une fille n'a pas plutôt franchi le seuil de sa porte qu'elle est aussi inconnue à tous les passants que s'il s'était transporté de Paris à Grenoble. Et du côté du jeune homme, ses voisins seront si bien accoutumés à ses usages qu'ils seraient fort étonnés de ne point voir monter cette maîtresse chez lui. Je n'ai pas besoin de vous conter comment se continue et se perpétue cette affaire. Vous voyez, cher ami, qu'il est facile de connaître ici une conquête. C'est un procédé mécanique qu'il suffit de connaître pour l'employer avec succès. » Bon, Brouillard, c'était un peu prétentieux, là, mais enfin bon, il continue de raconter des choses assez étonnantes. Jeudi dernier, j'étais au jardin de Beaujon. C'est un lieu de réunion et mule de Tivoli, un autre parc, on dirait un parc d'attractions maintenant. Je me promenais philosophiquement lorsque je vis entrer un jeune homme qui loge à l'hôtel de Savoie, ainsi que moi. Il avait sous le bras la plus jolie petite personne qu'on puisse voir. J'admirais son bonheur. Je l'enviais ainsi que tous les assistants. De retour à l'hôtel, je questionne la maîtresse sur l'objet que j'ai tant admiré. Elle m'apprend que c'est la fille d'un porteur d'eau qui est vêtue assez mesquinement à cause de son état et de sa pauvreté. Mais que le jeune homme la trouvant très belle et voulant se faire remarquer à la promenade, lui a acheté un habillement complet et très riche qu'il garde dans son armoire et qu'il prête à la petite toutes les fois qu'il l'amène à la promenade. Mais aussitôt qu'ils sont de retour, mademoiselle dépose les ornements, reprend ses nippes ordinaires et retourne à son état. Je la vis en effet descendre le même soir de la chambre de son amant avec son humble costume. Un autre individu, étudiant en médecine, a trouvé un autre moyen de faire des envieux. Il a parcouru toutes les rues et maisons adjacentes au palais royal. Il a choisi la plus jolie fille qu'il a pu trouver. Vous connaissez le sens dans lequel j'emploie actuellement ce mot « fille ». Et le dimanche, il va louer pour elle une belle robe, un châle de cachemire, un chapeau magnifique. Il l'amène ainsi à Tivoli. Il a l'air d'en être amoureux, d'en user très familièrement avec elle, et après la promenade, il l'a reconduit, l'a fait déshabiller, a bien soin de ne la toucher qu'avec des gants, et va rendre les habits loués. Voilà, cher ami, le genre parisien. Toutefois, je ne puis résister à vous dire qu'avant-hier, en me promenant au palais royal, j'ai vu dans la foule 2 filles, dont l'une joint à une figure angélique la plus jolie taille, l'air le plus décent. Cet enfant a tout au plus 15 ans. Elle m'a paru être conduite par sa sœur, qui, âgée de 18 ans, est déjà au fait du monde et peut bien présider à l'entrée que va faire sa cadette dans la carrière amoureuse. J'ai causé un instant avec la petite. Elle m'a paru si aimable, si novice, si naïve, si jolie. En un mot, il a fallu l'effort de toute ma philosophie. Il a fallu que je me sois tenu attaché à une colonne de l'édifice pour m'empêcher de... Je n'ose, cher ami, vous dire ce que j'ai eu envie de faire. Mais ce que je puis vous dire, c'est que si je rencontre une seconde fois cet objet charmant, ma chute est inévitable. Hélas, peut-être, quand vous recevrez ma lettre, le muriate d'or viendra à mon secours. Le muriate d'or était un médicament contre la syphilis. La suite des événements, c'est qu'en réalité, il a rencontré effectivement ces 2 jeunes femmes. Après, les 2 jeunes femmes avec un autre ami, naturellement, et il voulait les emmener au restaurant. Et les 2 jeunes femmes... On dit non, vous nous amenez par là, mais nous, on veut aller par là. Par là sont nos chambres. En réalité, ils avaient affaire à des prostituées, le palais royal est en plein de prostituées. Brouillasse avait l'air malin comme ça, mais en bon provincial, il s'était fait avoir. Pourtant, le palais royal avait une réputation depuis de plus d'un siècle de grande prostitution, mais il s'était fait avoir quand même. Voilà, c'est de quelle manière Brouillasse pouvait vouloir épater ses amis. Bon, il avait 25 ans, ses amis en avaient 20. Ils étaient, pardonnez-moi, c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais ils étaient quand même provinciaux et pour Paris, donc il y avait quand même un grand déséquilibre. Donc, Ray était tout à fait passionné par les lettres qu'il recevait de Bruyas, et il était vraiment impatient de venir à Paris, et il ne demandait que ça. Donc, le 14 novembre 1821, il écrit à Crozet: Je suis parti du Fontanil le 6 novembre 1821. La diligence était remplie de dames qui me reçurent au milieu d'elles avec un air très prononcé de satisfaction. La conversation, qui fut à peine interrompue dans la nuit par quelques moments de sommeil, fut très enjouée. Ces dames, et surtout trois charmantes demoiselles qui m'étaient contiguës, firent à tâche de me sevrer de certaines expressions grenobloises inusitées à Paris. J'en ai noté une foule dans mes tablettes. Notre conversation roula ensuite sur les plaisirs de la capitale, la grammaire, la musique, la philosophie, car ces dames paraissaient n'en rien ignorer. Je vous fais grâce des promenades nocturnes faites avec ces dames en avant de la diligence, du souper fait dans la voiture, des remarques que j'ai faites sur mon passage et sur la ville de Lyon, que vous connaissez mieux que moi, qui n'y est resté qu'un demi-jour seul dans l'isolement le plus complet et dans un état de tristesse tel que je n'en ai jamais éprouvé de plus terrible. Cette noire mélancolie était occasionnée par la peine que venait de me causer ma séparation de ces dames, et surtout de Mademoiselle Louise, dont j'étais déjà éperdument amoureux. Et puis la solitude dans laquelle je me trouvais au milieu de cette ville me faisait regretter vivement mes parents, mes amis et les lieux qui m'ont vu naître, croître et partir. Toutes les places étaient prises dans la diligence du Bourbonnais, et je fus forcé de prendre la troisième place du cabriolet dans celle de la Bourgogne. Quoiqu'elle mette un jour de plus que la première, le jeudi 8 novembre, à 5h du matin, je me rendis à bord du coche qui remonte la Saône jusqu'à Châlons. J'ai trouvé très agréable cette manière de voyager. On s'aperçoit à peine les mouvements du bateau, on y est très chaudement dans deux salles où l'on peut se tenir debout, et pour passer le temps, j'ai joué aux cartes et aux dames avec des voyageurs et des dames assez aimables. Je suis entré à Paris vers les 6h du matin. Le jour commençait seulement lorsque je suis descendu à l'hôtel des messageries, rue Notre-Dame des Victoires. Nous prîmes un fiacre pour nous faire conduire à l'école de droit. L'un de mes compagnons connaît dans ce quartier un étudiant qui nous a procuré un logement dans un hôtel, près le sien, et qui nous a reconduit à l'hôtel des messageries, qui est à peu près d'une lieue d'une autre, pour prendre nos malles. Il nous a ensuite menés au Louvre, aux Tuileries, au Luxembourg, etc., etc. La magnificence de ces palais, que nous avons parcourus très rapidement, m'a ébloui, et j'ai besoin de les revoir avec moins de précipitation pour pouvoir m'en former une idée. Me voici donc installé à Paris depuis le 12 novembre. J'ai pris mon inscription le 13 et j'ai employé ces deux jours à acheter une foule de petits ustensiles qui me sont indispensables, car ma chambre, située au 4e sur le derrière, qui me coûte 15 francs par mois et qui est assez mal meublée, ne renferme pas toutes les commodités de la vie. J'ai acheté un plan avec lequel j'ai déjà appris à connaître 4 ou 5 rues, le chemin de l'école dont je ne suis éloigné que de 5 minutes. J'espère que dans une quinzaine de jours, je saurai le chemin de quelques théâtres ou lieux remarquables, car je suis comme en prison dans le quartier Saint-Jacques. Sous peine de m'égarer, je ne fais un pas au-delà de 4 ou 5 rues que je connais. Je suis cependant allé voir au Théâtre des Variétés, sous la conduite de l'étudiant dont je vous ai parlé. À part ce spectacle, je n'ai guère vu Paris que sous son mauvais côté. La nourriture est plus chère qu'on ne le pense. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas vécu à moins de 3 francs par jour. Il est vrai que je pourrais vivre plus économiquement, et c'est ce dont je m'occupe. Ici, tous les jours, pendant l'hiver, les rues sont pleines de boue. On a à chaque instant les fiacres et les cabriolets à esquiver. Heureux s'ils ne vous couvrent pas de boue. Le matin, il faut perdre une bonne heure à brosser ses habits et ses souliers. Si vous avez le malheur de venir à Paris, avec l'amour que je vous connais pour la propreté, on aura peine à reconnaître la couleur de vos habits. Donc après, il écrit à son père pour lui dire qu'il est arrivé, qu'il a parcouru de grandes distances et qu'il était triste à cause de l'éloignement du toit paternel. À mon avis, il n'était pas si triste que ça, mais il fallait bien donner le change avec le père. Il aborde quand même un sujet un peu plus difficile, mais bon, c'est le nerf de la guerre. Le séjour de Paris doit être fort agréable pour quelqu'un qui aurait 5 à 6 000 francs au moins à y dépenser en un an, car tout est ici fort cher. Et jusqu'à ce moment, il a fallu continuellement puiser dans ma bourse pour m'acheter une foule de petites choses indispensables. Donc il reprend son récit, la nourriture est plus chère qu'ailleurs. Enfin, si la capitale offre beaucoup d'agréments, elle offre aussi bien des inconvénients. Dans cette saison, il y pleut continuellement. Les rues sont pleines de boue et de monde, à chaque instant il faut esquiver les fiacres. Il reprend la même chose, il parle de brosser ses habits, ses souliers, enfin ça a l'air vraiment de l'ennuyer. De sorte que, jusqu'à présent, le séjour de la capitale me paraît bien fatigant et assez triste, parce que je m'y trouve isolé. J'espère trouver quelqu'un dont la compagnie me fera attendre plus patiemment le moment de revoir mes chers parents et les lieux qui m'ont vu naître. Adieu mon cher papa, Donnez-moi plutôt de vos nouvelles, je vous embrasse. Quand ils venaient de province, les étudiants avaient tendance à se regrouper par pays. Les Grenoblois se regroupaient ensemble. Donc quand un Grenoblois arrivait avant un autre, il le prenait un peu sous son aile pour lui présenter les avantages et les inconvénients de la ville, les restaurants où on pouvait manger un peu moins cher qu'ailleurs, la chambre d'hôtel. Alors les chambres d'hôtel, parfois il y avait des combines, les hôteliers payaient des étudiants pour amener du monde, enfin c'était. Et alors quand on arrivait dans la cour des messageries, en général, on était toujours sollicité. On débarquait de la diligence avec ses valises, ses malles. Vous aviez toujours quelqu'un qui était là pour vous proposer de les porter, et vous aviez des gens qui vous disaient, voilà, je connais un bon hôtel à tel endroit, je peux vous recommander, vous paierez moins cher si vous venez de ma part. Donc, l'activité principale de Ray et de ses amis à Grenoble pendant un temps était la fréquentation du théâtre de la ville. Grenoble avait un petit théâtre, qui est d'ailleurs à l'emplacement d'un théâtre qui existe toujours, et là, ils étaient très, très, très passionnés. Il ne faut pas oublier qu'on est dans l'époque des enfants du paradis. La jeunesse est absolument passionnée par le théâtre, comme elle le sera plus tard, je dirais dans les années 40, 60, par le cinéma. Quand ils viennent à Paris, la chose qui leur paraît absolument indispensable, c'est de fréquenter au plus vite et le plus possible les salles de spectacle. À Charvel, en décembre 1821, il écrit: Le Panthéon est l'édifice le plus imposant que j'ai vu. Je descendis il y a quelque temps dans les caveaux de ce superbe édifice. J'y ai vu la tombe de Voltaire avec sa statue qui occupe la place d'honneur. Rousseau est à l'opposé. Dans divers caveaux est le général Lannes et 10 à 20 grands hommes dont je n'ai jamais entendu parler. Dans un coin de ce caveau, on est surpris par un écho parfait qui répète très distinctement toutes les syllabes des mots et qui, lorsqu'on frappe dans son chapeau, reproduit un son semblable à celui d'un gros coup de canon dans le lointain, ce qui est fort imposant auprès de la tombe de Montebello. Je suis sorti de ce lieu plein d'un salutaire enthousiasme qui fit bientôt place à l'indignation lorsqu'on m'a appris qu'on allait changer en église et profaner ainsi ce temple élevé aux grands hommes pour la patrie reconnaissante. Ray et ses amis ne sont pas très proches de l'église, ils seraient même carrément à l'opposé. Quand on leur raconte qu'on va, comment dire, retransformer le Panthéon en église, Ray, ça ne lui plaît pas du tout. C'est l'époque des missions, c'est l'époque de la recristianisation de la France, et une ambiance dans ce pays, au point de vue de la religion, qui est assez, on va dire, assez délétère. Je vais de temps en temps passer la soirée au Palais Royal, dont j'ai parcouru 20 à 30 fois les galeries, magnifiquement décorées et illuminées pour les riches boutiques de modistes, d'horlogers, d'orfèvres, par de brillants cafés et d'appétissants restaurants, etc. C'est dans cette galerie que se promène une foule de prêtresses et veuves qui font le métier pour leur compte et autres qu'on appelle plus particulièrement les ninfes de ces lieux. Ces dernières appartiennent à deux établissements. Elles sont superbement vêtues, la gorge à demi nue. Et par la beauté de leur figure, la grâce de leur taille et par leurs agaceries, elles engagent l'amateur à monter dans leur chambre et pour la somme de 10 francs, vous pouvez en jouir pendant que 5 minutes. Il en coûte 20 à 30 francs pour y passer la nuit. J'étais l'autre jour avec deux jeunes gens qui m'avaient presque déterminé à les y suivre, mais plusieurs considérations m'en détournèrent. Les premiers jours, je trouvais assez immoral ce libertinage publiquement autorisé. Je remarquais un contraste singulier entre la figure sérieuse des sentinelles qui se promènent dans les galeries et les minois lascifs des laïcs. Mais aujourd'hui, je trouve cela bien naturel. Et lorsque je passe dans un coin de rue obscur, je ne suis plus scandalisé de recevoir un petit coup sur l'épaule ou un croc en jambe d'une déesse du coin, dryade ou anadryade. Donc, il s'était vite adapté. Hein. Donc, on va regarder une image là. C'est ce qu'on appelle la galerie de bois. C'est à l'emplacement de la galerie d'Orléans. Quand le duc d'Orléans a fait construire le palais royal, à un moment donné, il a eu encore besoin d'argent. Quelqu'un lui a conseillé de construire une galerie provisoire à l'emplacement de la galerie d'Orléans actuelle, près du ministère de la Culture, entre le ministère de la Culture et la Comédie-Française. Et donc, on a construit ces galeries de bois très spéciales qui étaient encore plus mal fréquentées que les galeries de pierre. C'était un univers qui pouvait être assez effrayant, mais tout à fait étonnant. J'ai écrit un livre sur le Palais Royal il y a 3 ans maintenant, et je peux vous dire que ce que j'ai lu, à chaque fois que je passe dans ce Palais Royal, je trouve étrangement calme. Il y avait à peu près dans le quartier 2000 prostituées. Les prostituées étaient au rez-de-chaussée, dans les entresols, dans les étages, dans les immeubles alentours, et on trouvait aussi dans ce Palais Royal des maisons de jeu. Il y avait le fameux 113 dont Balzac a parlé, qui était vraiment un endroit de perdition parce que on vous demandait à l'entrée de déposer votre chapeau, parce que dans le chapeau, il pouvait y avoir des cartes truquées, il pouvait y avoir différentes choses. On vous donnait un numéro, vous montiez à l'étage et là, vous trouviez des tables de jeu. Et là, des gens essayaient de vous revendre des martingales, différents moyens de gagner. Bon. On voyait parfois des jeunes gens partir dans le jardin et se faire sauter la cervelle. Il y avait une ambiance absolument incroyable. Et il y avait un étage supérieur, c'était l'étage des gagnants. Quand un homme avait gagné de l'argent, ce qui arrivait parfois, même assez souvent, il y avait des jeunes femmes qui pouvaient l'aider à dépenser cet argent. Avec l'avènement de Louis-Philippe, le Palais Royal va sombrer à ce point de vue. La bourgeoisie montante va absolument imposer son veto, faire fermer les maisons de jeu et chasser les prostituées du Palais Royal. Donc Ray, quand il est arrivé en 1821 à Paris, quand il fréquente ce palais royal, alors qu'il vient de Grenoble, on imagine Grenoble qui était une ville un peu, on va dire, plan-plan, il y a un contraste qui est absolument incroyable pour lui. 25 décembre, mardi. Je me suis levé à 2h30 du soir, croyant me lever à 11 ou 12 heures. Je suis allé faire un tour aux Tuileries où il y avait peu de monde. J'ai dîné avec trois camarades chez un restaurateur rue de Richelieu, en face du Théâtre français, où pour 32 sous, on a un potage, trois plats, un dessert, une demi-bouteille d'assez bon vin. Genre de choses, de notes qu'on peut trouver dans le journal de Joseph Augusteret. Nous avons passé 1 heure au Café de la Paix, à l'un des bouts de galerie de pierre du Palais Royal. Pour 10 sous que m'a coûté un verre d'eau sucrée, j'ai vu des exercices de funambule assez faibles et une pantomime où j'ai ri des farces qu'on y exécutait. Quoique assez mal et assez salement. La salle qui était autrefois celle du théâtre des variétés est dans la forme de celle de Grenoble, mais bien plus grande. Elle est toute tapissée de glace. Les courtisanes y font leur entrée franche et même le droit d'y prendre quelque chose en reconnaissance des chalands qu'elles attirent. J'ai passé le reste de la soirée avec Margot et Demi-Solz dans la chambre de ce dernier. Nous y avons joué aux cartes jusqu'à minuit, qui est arrivé sans que nous nous en doutions. Donc on va voir une image, là, de la dernière que j'ai mise sur Paris, où on voit cette fameuse salle, la salle du Café de la Paix, qui est en réalité le théâtre du Palais Royal maintenant. On avait transformé le théâtre du Palais Royal en une espèce d'établissement pour funambules, enfin, saltimbanque. Et dans la salle, on avait dressé des tables et des banquettes. Donc on buvait de l'eau sucrée, on buvait différentes choses et on pouvait assister au spectacle. Donc il continue ses visites dans Paris, il visite le cabinet d'histoire naturelle qui occupe les 2 étages d'un bâtiment isolé. Les immenses collections de reptiles, de quadrupèdes, d'oiseaux, de minéraux offrent aux naturalistes de bien grandes richesses. Je regrettais en parcourant avec rapidité les diverses pièces de ce bâtiment, de ne pouvoir maîtriser mon attention, qui volait sans goût et sans choix d'un objet à un autre et qui n'en retirait d'autres avantages que d'éblouir mes yeux. J'ai remarqué 2 éléphants, un rhinocéros, un immense poisson de mer, 2 girafes de 12 à 15 pieds de hauteur, des buffles, etc. J'ai aussi remarqué une horloge encaissée dans une cage de verre qui permettait d'en admirer le mécanisme, une Vénus en marbre blanc, et ce qui est non moins digne d'attention, beaucoup d'ordre et de propreté, les parquets sont cirés. Ensuite, il visite un endroit qui m'est très cher, c'est le belvédère du Jardin des Plantes. En me retirant, j'ai parcouru une espèce de labyrinthe dont les allées contournées en spirale conduisent à un pavillon construit en bronze où l'on découvre toute la capitale. Il était trop tard pour jouir du coup d'œil. En descendant de ce belvédère, j'étais recouvert par les branches touffues des sapins toujours verdoyants qui forment en cette partie du jardin une forêt très épaisse. J'ai remarqué la tombe modeste d'un naturaliste sur laquelle on a élevé un tronçon de colonne. Plus bas, j'ai remarqué un cèdre du Liban d'une dimension immense et pour en finir, me voilà dehors. Donc le cèdre du Liban, c'est le fameux cèdre du Jussieu qu'on peut toujours voir, donc qui a vu passer à côté de lui Joseph Augusteret en 1821. Et vous avez là la tombe naturaliste d'Aubenton avec effectivement une colonne tronquée. La dernière lettre que je vais vous lire de Ray concerne ses promenades. Le 8 février 1822, il dit assez ordinairement lorsque le temps est beau. Je vais faire un tour au Luxembourg où je rumine en me promenant les plaidoyers que je dois débiter dans les conférences dont je fais partie. Aujourd'hui, au lieu de prendre la rue de Traverse qui conduit de la rue Saint-Jacques, j'ai parcouru jusqu'au bout cette dernière. Vers le milieu de ma course, je suis entré avec quelques curieux dans une espèce de chapelle renfermée dans une espèce de dôme. Quelques nonnes étaient par-ci, par-là, lorsque tout à coup, 4 ou 5 prêtres débouchèrent d'un certain coin. L'un d'eux monta dans une chaise en forme de poulailler, érigé au milieu du chœur, et se tournant vers un des côtés, il commença un sermon qui ne s'adressait point à l'auditoire visible dont je faisais partie, mais à une grille à claire-voie à travers laquelle je n'ai rien pu voir. Une cloison très opaque barrait la vue dans la partie supérieure de cette grille. Qui était dans cet auditoire grillé? Nesiovos. Sans m'embarrasser du sujet de cette cérémonie, j'ai continué ma promenade. Chemin faisant, j'ai remarqué que ce quartier renfermait beaucoup d'hôpitaux, entre autres l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, dont l'église est remarquable par son architecture et un assez joli dôme. Bientôt, laissant à ma droite l'observatoire, j'arrive à la barrière d'Arcueil, qui termine la longiligne rue Saint-Jacques, et me voilà pour la première fois depuis 3 mois hors de Paris. Je continue à diriger mes pas vers des moulins à vent que j'aperçois à quelques distances. Ce n'est pas sans peine que j'en approche après avoir gabioté dans un chemin des plus fangeux que j'ai encore vu. Enfin, me voilà en présence de 5 ou 6 moulins à vent. J'admire ce frêle bâtiment de bois guindé sur un pivot très obtus de maçonnerie, différent cela du premier moulin à vent que j'ai vu depuis. C'était dans la Bourgogne, dont le corps était en maçonnerie et n'avait de mobile que le chapiteau auquel était intérieurement suspendue la mécanique. Quoi qu'il en soit, j'observe avec un naïf plaisir ces ingénieuses machines que je n'avais guère vues jusqu'alors qu'en images. J'admire ces grandes croix que le vent fait mouvoir avec lenteur. Le bruit mesuré des tic-tac de ces moulins a remplacé le brouhaha de la ville. En face de moi, vers le midi, au-delà des moulins, se déploie une verdoyante campagne qui n'a d'autre borne que le ciel. À ma droite, quelques laboureurs sillonnent leurs champs à l'aide de charrues plus légères et différemment construites que celles que j'étais habitué à voir. Un jeune homme conduit le soc et dirige le couple de chevaux qui y est attelé. Et vers le nord, la plaine semble être occupée tout entière par la capitale. J'aperçois néanmoins, vers le levant et le couchant, quelques prés, quelques bois, et tout cela semble renfermé par la voûte circulaire du ciel, voûte que, pour la première fois, j'ai remarqué être d'une forme considérablement surbaissée. Je parcours de nouveau le pitoyable chemin qui sert de prolongement à la rue Saint-Jacques. Je rentre dans la ville, qui, de ce côté, par la laideur des maisons, qui ont au plus 2 étages, par la saleté des rues et la mauvaise mine de ses habitants, ressemble bien plus à quelques pauvres villages qu'à une ville. Donc là, il a visité le bout de la rue Saint-Jacques, le faubourg Saint-Marceau, et c'est cet endroit qui était effectivement assez mal réputé. Une fois que Joseph Auguste Rey a passé ses examens, reçu licencié en droit le 5 avril 1823, il a pris les diligences du retour et il a retrouvé ainsi ses parents et son pays natal. Il s'est marié en 1826 avec une jeune orpheline de 5 ans, sa cadette, Pierrette Zoé Roy. Cette dernière a été élevée par son oncle et était dotée, ce qui n'était pas à négliger, d'une petite somme qui devait permettre au jeune couple de débuter dans la vie. En 1827, la première naissance d'un garçon, Émile, devait être suivie par celle du frère Jean-Auguste l'année suivante. Émile ne survivra pas. Joseph Auguste Rey s'est inscrit au barreau de Grenoble, mais il a eu quelques problèmes de vue. Il ne pouvait pas suivre les plaidoiries, il avait du mal à lire. Avec l'aide de son père en 1829, il a acheté le domaine de La Pierdière, une belle propriété agricole au Fontanil. On voit que l'Isère n'était pas canalisée, donc il y a eu énormément d'inondations à Grenoble et aux environs, ce qui causait énormément de problèmes. Maintenant, l'Isère, on voit, est complètement canalisée. L'Isère ne se répand plus dans la plaine. Donc là, nous avons le Fontanil. C'est une vue de 1930 à peu près. Le Fontanil a bien changé depuis cette époque parce qu'il y a eu quelques lotissements. Mais on reconnaît la propriété de la Pierdière avec la maison de Joseph Auguste Rey, qui appartient à la commune maintenant qu'on appelle la Maison Rey et qui abrite des artistes à demeure. En 1837, il a refusé le poste d'adjoint au maire du Fontanil parce qu'il ne s'entendait pas avec le nouveau maire et qui n'habitait pas la commune. Et pour lui, c'était un problème légal qu'il ne supportait pas. Et en 1838, il a rédigé, alors un document qui est à mon avis assez exceptionnel, il a rédigé sur 2 ans un tableau quotidien de ses dépenses et de son activité, ce qui fait qu'on a la vie d'un bourgeois de l'Isère, un bourgeois de province pendant 2 ans, entre 1838 et 1839, au quotidien, et on peut mettre ses dépenses en face, ce qui peut donner quelque chose de très intéressant. C'est quelqu'un de très organisé qui écrivait énormément. Comme il avait commencé avant, il a continué. En 1840, son fils Jean-Auguste a épousé Alice-Marie Amélie Fèche-Blanc. Alors les Fèche-Blanc, les gens que j'avais rencontrés qui étaient descendants de Joseph-Auguste et enfin de la famille, étaient aussi les descendants de Fèche-Blanc. Et Fèche-Blanc est encore connu dans la région de Grenoble parce que c'était un grand chasseur, un chasseur d'ours. particulièrement, et il a laissé des mémoires, beaucoup de récits. Il a été maire de Voiron, il a laissé beaucoup d'écrits, et moi qui ne suis pas, c'est moins qu'on puisse dire, tourné vers la chasse d'une façon assez positive, je veux dire que j'ai lu ses mémoires avec beaucoup d'intérêt. C'est très humoristique, c'est ma foi très très intéressant. Donc je me suis toujours dit, tiens, quelles pouvaient être les conversations entre Joseph Auguste Rey et Fesch Blanc, tous les deux traversés en littérature et en choses intellectuelles. Je pense que s'ils se connaissaient, ce qu'ils se fréquentaient, ça devait être quelque chose vraiment de bien. Mais on n'en sait rien, hélas. En 1842, en deux volumes, Joseph Auguste a quand même publié une théorie pratique de la science sociale qu'on a toujours dans beaucoup de bibliothèques confondues avec Joseph Rey. Parce qu'il y avait un Joseph Rey qui a aussi édité beaucoup de choses politiques à Grenoble, qui est plus vieux que Rey et qui a eu des affaires, il a défié Napoléon Ier, enfin. Donc son livre Théorie pratique de la science sociale a été lu par les fourriéristes, assez mal critiqué par Victor Considérant. J'ai retrouvé la réponse que Rey a fait à Considérant, une réponse assez dure. Mais Rey, donc, en 1842 et dans ces années-là, a vraiment été très concerné par les affaires sociales. À partir de 1843, il va faire partie de l'Académie Delphinale, qui est une académie qui existe encore, qui est une société culturelle très ouverte sur différentes choses, sur des débats sociaux particulièrement à l'époque. Et en 1848, la révolution de 1848, le préfet Raymond, Ferdinand Raymond, va prendre Rey comme secrétaire général de préfecture. Pour lui, c'était quelque chose de très important. Ça va durer peu de temps, parce que cette expérience socialiste va durer relativement peu de temps à Grenoble. Donc il va quitter son poste. Et à partir de là, Rey va se consacrer à la culture de la soie, à la maillannerie, à différentes choses. On cultivait beaucoup le chanvre aussi au Fontanil. Il va continuer sa vie comme ça. Il va écrire ces manuscrits que j'ai, qui sont des réflexions philosophiques en vue de la mort, qui sont des choses assez étonnantes, assez illisibles. Il va disparaître en 1875, le 17 décembre. Ses amis, eux, ont continué leur carrière et disparaissent petit à petit. Joseph Auguste est enterré au cimetière du Fontanil. Alexandre Charvet, Albin Crépu sont enterrés au cimetière de Grenoble. Et Bruyas, je l'ai retrouvé au cimetière de Suril-Comtal. Nous étions il y a quelques années en province, une pléiade de jeunes drôles qui vivions dans un étrange monde, je vous assure. Si jamais je sais écrire, je pourrais faire un livre sur cette jeunesse inconnue qui poussait à l'ombre comme des champignons gonflés d'ennui. C'est Gustave Flaubert qui a écrit ça. Je vous remercie.
Au début, quand vous avez montré les archives, ils ont écrit, on peut dire, en sténo.
Oui.
Est-ce que c'est vrai que des gens apprenaient ça?
Oui. La sténographie existait déjà. Ça existe depuis le XVIIIe siècle.
D'accord.
Les systèmes sténographiques ont changé, ont évolué. Beaucoup de gens, même des étudiants après, ont appris la sténo pour pouvoir prendre des cours très vite.
Oui,
vrai, c'est ce qu'il a fait. Où il y a beaucoup de choses dans le droit, des choses très denses à apprendre, à comprendre et à prendre en note, surtout pendant les cours. Il avait donc pris ses notes, fait sa correspondance à partir en sténo.
Est-ce que vous avez donné ça à la famille que vous avez rencontrée?
Non, je vais donner ça à la bibliothèque de Grenoble.
Oh, oui. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai dû Madame Boisdelat il y a déjà plusieurs années et je lui ai dit que c'était normal. D'accord. Et que quelque part ça aille aux côtés des archives de Crozet. Donc. J'ai deux volumes qui ne sont pas entièrement terminés, mais d'édition de cette correspondance. Près de 2000 notes de bas de page, des choses comme ça. Et j'aimerais bien le faire éditer. Je trouve qu'au point de vue local, et pas seulement local, c'est ouais. Parce qu'on a vraiment un témoignage de jeunes gens dans les années de la Restauration. C'est la génération romantique, c'est la génération d'Hugo, c'est la génération de George Sand, c'est la génération de Delacroix. D'ailleurs, il y a une phrase que je ne vous ai pas lue, mais qui se retrouve dans la correspondance. Des gens qui n'ont pas connu la Révolution, à qui on a toujours parlé de la Révolution française, qui ont connu sans le connaître vraiment parce qu'ils étaient enfants le régime napoléonien et qui après avaient une grande espérance, un appétit de vie qui se ressent beaucoup dans la correspondance. Crépu est un type absolument novateur. Il faut bien imaginer quand même que vers 1830 quand même, il soignait les gens par l'homéopathie. Il faisait faire des régimes aux gens, j'ai trouvé une passe de régime absolument incroyable. Lui était novateur, Alexandre Charvet qui est allé à Lyon, et lui j'ai retrouvé son descendant par contre, qui s'appelait Alexandre Charvet, qui est décédé il y a quelques années, et qui était médecin, comme son ancêtre, qui s'occupait du musée de médecine de Grenoble d'ailleurs. Alexandre Charvet était quelqu'un d'absolument novateur aussi dans les recherches. Il avait drogué des animaux, et il avait trouvé que les animaux eux-mêmes se droguaient d'ailleurs. Utilisait certaines plantes pour, pardonnez-moi, se shooter. Il avait fait une recherche mais qui nous fait rire, mais qui était à l'époque très très sérieuse et très très novatrice. Brouillaz, j'aime beaucoup Brouillaz parce que c'est quelqu'un qui a un très beau style au point de vue littéraire. Ces gens-là ont apporté quelque chose à la société.
Il y a une coïncidence, c'est que Hector Berlioz, qui est né en 1803, oui, est venu de la côte Saint-André, dans l'Isère, juste à côté de Grenoble, et a fait ses études à Paris, exactement en 1821.
Voilà.
Alors, il n'a pas fait des études de médecine très très longues, puisqu'il a préféré s'orienter vers la musique, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il a partagé exactement... C'est les mêmes années dont vous avez parlé.
Je me suis intéressé aux autres étudiants, parce qu'on a quelques récits d'autres étudiants qui sont parfois intéressants, qui recoupent parfois ce que rapporterait. Et je me suis intéressé à Berlioz aussi. Ouais. J'ai fouillé dans les archives aussi, les archives de la faculté de médecine. J'ai retrouvé les registres de la faculté de médecine, les registres de la faculté de droit n'existent plus. Mais les registres de la faculté de médecine, j'ai retrouvé l'inscription de Berlioz dans les registres. Et j'ai un souvenir de cette recherche sur Berlioz. Pour moi, c'est quelque chose de très charmant. C'est que le soir, il avait, je crois, un sandwich, mais un repas qu'il portait ou qu'il était allé prendre chez le rôtisseur. Et il allait le manger en face du coucher de soleil sur la Seine. Mais effectivement, ça fait partie des gens qui étaient en même temps que Ray à Paris.
À propos de l'homéopathie aussi, on a eu le mois dernier une conférence de La Châtre, et qui lui aussi avait beaucoup travaillé dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est tout cas, ces gens qui étaient en avance, qui étaient très proches du socialisme, etc., avaient également cet intérêt vers ces médecines nouvelles. Le Paris qui est décrit ressemble quand même aussi beaucoup au tableau de Paris de Sébastien Mercier, c'est-à-dire que c'est quasiment le même. La sortie de Paris et tout ça, la boue et tout ça, ça n'avait quasiment pas changé.
Il y a des choses qui avaient changé parce que Napoléon était passé par là et il avait quand même fait faire pas mal de travaux dans Paris. Ouais. Oui, effectivement, des activités, le Palais Royal par rapport à Mercier, c'était toujours un peu la même chose, même si on trouve des variantes. Alors, j'ai pas parlé à dessein, je n'ai pas cité les extraits de ses explorations dans les salles de spectacle parisiennes. Il parle beaucoup des gens, des pièces qu'il a pu voir jouer. On jouait énormément de pièces différentes à Paris. On changeait de spectacle parfois plusieurs fois par jour dans les salles. C'était, les comédiens étaient rompus à ce genre d'exercice. Ils apprenaient 3 ou 4 rôles en même temps. On faisait une consommation de théâtre absolument incroyable. De cette époque d'ailleurs date le boulevard du crime, le boulevard du temple où tous les théâtres se côtoyaient. On disait que tous les quarts d'heure dans ce boulevard il y avait un crime sur la scène, d'où le nom du boulevard du crime. Donc ces gens-là étaient très passionnés. La chose qui a beaucoup passionné et qui nous paraît maintenant étrange, mais c'était l'époque qui voulait ça, c'était l'astronomie. Ray à un moment donné a même voulu dessiner une méridienne dans sa chambre. Il a voulu tracer une méridienne et j'ai une lettre où il donne vraiment des cotes astronomiques en chiffrés très compliqués. Il est allé vraiment dans la réflexion autour de ça. Ils se sont amusés aussi à colorier un plan de Grenoble. Voilà.
Est-ce qu'il y a des liens de parenté entre les deux Ray ou c'est complètement différent?
Non, il n'y a pas de lien de parenté.
Pas de lien de parenté.
D'ailleurs, Joseph Ray, donc l'un s'appelait Joseph et l'autre Joseph Auguste. Le mien, entre guillemets, s'appelait Joseph Auguste, et à la Bibliothèque nationale, dans le volume que Ray a écrit « Théorie pratique de la science sociale », j'ai trouvé un prospectus avec une lettre de Ray, Joseph, indiquant bien qu'il n'était en rien parent de Joseph Auguste et qu'il ce n'était pas lui qui avait écrit ce livre. Donc ça a été précis.
Il y a peut-être eu des confusions, non ?
Il y a eu des confusions, D'ailleurs, la Bibliothèque nationale faisait la confusion. Ouais. La théorie pratique des sciences sociales, il était répertorié à Joseph Ray. Parce que Joseph Auguste Ray, la bibliographie est minuscule. Mmh. Alors que Joseph Ray, il a écrit même parfois des opuscules, mais il doit y avoir une trentaine d'ouvrages, quelque chose comme ça.
Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, votre Joseph Ray, son ouvrage, Auguste Comte, le détient dans sa bibliothèque. c'est un ouvrage, du point de vue idéologique, on peut lui donner quoi ? Une teneur socialisante
Je vais vous dire quelque chose et vous me confier un peu. Je ne suis pas spécialiste du socialisme et des théories socialistes de l'époque. Donc moi, quand j'ai abordé ce livre, il m'a semblé assez touffu. Je ne peux pas dire que je l'ai lu avec un plaisir immense. Je n'ai pas toujours tout compris, d'ailleurs, enfin, ou du moins ce qu'il voulait aborder. Là, je ne peux pas vous dire exactement.
Ah, disons que ça a creusé, quoi.
Voilà.
Tout à l'heure, quand même, c'est ce qu'il a écrit sur la mort. Il y a quelque chose là-dedans.
C'est une chose assez obscure, qu'il faudrait peut-être que quelqu'un d'autre que moi l'aborde. Je vais donner ces manuscrits à la bibliothèque de Grenoble.
C'est quand même des idéologies.
Et il était dans une ville aussi qui a été très concernée par le socialisme. Grenoble, c'est un croisé du socialisme en France.